On va rester à Villeneuve-d'Ascq avec ce 21e festival du Grand Maelstrom qui a pour titre Éclat du 20 au 28 mai.
Oui, ça y est, on retrouve notre lieu habituel depuis tant d'années. On fait notre festival dans cette ferme du Pire qu'on aime particulièrement parce que c'est un lieu où on peut moduler l'espace comme on veut, et particulièrement cette année, on a des spectacles qui se déroulent dans plein de dispositifs différents, que ce soit en frontal, en bifrontal, en scène complètement inversée. Enfin, voilà, cette année, c'est un festival extrêmement élargi qui démarre dès le 20 mai et qui se déroule jusqu'au 28 mai. Et voilà, vraiment, il y a des propositions d'une diversité à toute épreuve.
Donc un festival, aussi une fête quelque part, hein, puisque en général, les spectacles que vous présentez sont l'occasion de rencontres aussi.
Oui, c'est surtout pour ça qu'on le fait, c'est-à-dire que ce sont d'abord des spectacles qui naissent d'ateliers qu'on mène toute l'année avec des amateurs qui sont des comédiens, ou qui sont des danseurs, ou qui sont des poètes. Et que vraiment notre objectif principal quand on crée ce festival, c'est que chacun puisse évidemment montrer le travail de son année, mais aussi surtout qu'on puisse partager de manière globale une semaine, un temps de répit avec un public qui vient nous voir chaque année et qui remplit la salle, qui nous permet de même faire déborder la salle au fur et à mesure des éditions. Donc voilà, c'est vraiment un temps d'échange jusqu'au samedi dimanche où on passe un peu dans une énergie différente. Le samedi soir, on fait une grande fête dansante tous ensemble, et le dimanche, c'est plus une journée conviviale où on accueille les familles et où on a la chance d'assister à des scènes de la troupe des débutants. Donc voilà, il y a vraiment tout un temps qui est consacré aussi à accueillir le public et à partager avec lui notre travail.
Alors, c'est vrai que le Grand Maelstrom Théâtre porte bien son nom, puisque, enfin, ou festival, hein, porte bien son nom, puisque vous êtes très nombreux dans cet ensemble.
Oui, c'est une compagnie qui a maintenant 21 ans d'existence, qui a été fondée par Violaine de Barge et d'autres personnes à ce moment-là, et qui aujourd'hui compte plus de 111, le chiffre exact, d'adhérents. Et donc qui sont répartis dans différentes troupes à l'intérieur de cette compagnie, donc, qui font à la fois, pour certains, du théâtre, ou théâtre et danse en même temps, ou écriture poétique. Voilà, on essaye vraiment de mélanger toutes ces disciplines, de les faire dialoguer entre elles et de voir comment tout ça peut créer un spectacle, quelque chose de vraiment vivant.
De quel âge à quel âge vos comédiens
De quel âge à quel âge? Bah, pour des raisons un peu de légalité, on commence autour de 16 ans, 15-16 ans. Il faut une autorisation parentale, évidemment, à cet âge-là. Mais à partir de ce moment-là, on n'a encore jamais eu de personne de 110, 120 ans. Mais il n'y a pas de limitation d'âge du tout. C'est vraiment pas un critère.
Et comment vous organisez les ateliers, voire même les mini-compagnies?
Chaque atelier, chaque troupe a son propre intervenant, et il est vrai qu'on occupe maintenant quasiment tous les soirs de la semaine au CCA de la Madeleine qui nous accueille, et c'est là qu'on donne chaque année nos ateliers.
Est-ce qu'il y a un esprit commun à l'ensemble de ces compagnies? Est-ce que, bon, peut-être pas en forme de thématique, mais en forme de sensibilité?
Bien sûr. C'est pas une... Autant Violaine que moi, on est des gens qui viennent d'une vraie sensibilité à tout ce qui peut être éducation populaire, à tout ce qui peut être art et culture, à tout ce qui peut être théâtre d'expérimentation. Il y a une formule qu'on aime beaucoup, hein, qui est héritée d'Antoine Vitez et que beaucoup de gens qui font de théâtre connaissent, qui est la formule du théâtre élitaire pour tous. Et c'est vraiment ça qui est notre dada, quoi. C'est comment ces notions de théâtre populaire et de théâtre d'expérimentation, on peut les dépasser. Arrêter de penser qu'il y a des gens qui comprennent et qui savent ce qu'est le théâtre, et des gens qui ne le comprennent pas et qui du coup ne peuvent pas rentrer dans cet univers-là. Mais c'est vraiment de faire sauter cette barrière et de montrer que l'expérimentation est au service de la création de nouvelles formes pour notre époque, et que le théâtre populaire est aussi au service d'un art qui s'adresse à tous, et que l'un n'est pas incompatible avec l'autre.
Comment on arrive au Grand Maelstrom?
On arrive parfois simplement parce qu'on a un ami qui est dans le Maelstrom et que du coup on l'a vu jouer dans une pièce et que du coup voilà on rencontre la troupe et que ça se fait comme ça. On arrive aussi de manière plus comment dire administrative en se préinscrivant dès juin, puisque en juin on annonce les ateliers qui auront lieu la saison suivante avec tous les projets de chaque atelier, puisque chaque atelier a pour objectif de présenter une forme créée. Et ensuite, voilà, il y a une séance découverte gratuite par atelier en octobre de la saison qui démarre. Et en fonction des places, évidemment, on essaye d'accueillir le plus de personnes possible.
Donc ces personnes, comme tu le disais, Simon, hein, elles viennent parce qu'elles connaissent peut-être quelqu'un, il y a une forme d'intronisation.
Oh non, là tu vas me faire dériver vers des mots de secte et tout ça. Non, non, pas du tout. Non, non, c'est extrêmement. On a vraiment affaire à un public. Moi, ce que j'aime vraiment dans cette compagnie, c'est qu'on peut se retrouver dans un atelier de théâtre avec un chômeur qui va faire du théâtre avec un cadre supérieur, qui va faire du théâtre avec un psychologue, qui va faire du théâtre avec un enseignant, qui va faire du théâtre avec un PDG d'entreprise. Enfin, ces choses-là, à partir du moment où on rentre dans la salle et qu'on travaille tous ensemble, on n'en a plus besoin, quoi. Enfin, ça, c'est des étiquettes sociales qui nous servent dans nos métiers respectifs. Quand on fait du théâtre ensemble, on est des êtres humains sur un plateau. Et il n'y en a pas besoin.
Donc l'idée pour les personnes et pour les groupes quand ils se forment, c'est d'avoir un objectif d'un spectacle à produire ou bien c'est l'animation, l'atelier qui compte?
Alors c'est un peu des deux. Il est vrai que à part l'atelier vraiment débutant, qui a redémarré cette année grâce à Loïc Pinchon, à part cet atelier-là où c'est quand même d'abord avant tout apprendre le théâtre, puisque les gens viennent pour la première fois, et qu'on va ensuite leur proposer de créer des petites scènes qui vont être présentées pendant ce festival, ce sera le dimanche 28 mai à 14h. Pour le reste des troupes, c'est vraiment des troupes qui démarrent avec un projet. Je mets aussi un peu à part l'atelier d'écriture poétique, même si, comment dire, le projet et l'atelier en lui-même sont vraiment, grâce à Olivier Jeuniaux, ont été fondus en un seul, quoi. Et que du coup, maintenant, les gens savent qu'il s'agit d'écrire, d'échanger tous ensemble, d'apprendre à écrire, mais en même temps de créer un spectacle qui va être montré à la fin de l'année. Pour tout le reste, chaque intervenant arrive vraiment avec un texte, en général, ça part de là, ou une proposition de création. Et toute l'année va être construite et orientée avec cet objectif-là.
Est-ce que tout ce qui est produit est présenté lors de ce festival ou vous en gardez en chantier?
Non. On montre tout. Même quand ça fait 7 heures, on le montre. Et c'est vrai que cette année, il y a un spectacle qui va être présenté en avant-première, qui est le spectacle de la troupe XXL, qui s'appelle Surtout ne regardez pas mon jardin. Qui est mis en scène par Violaine de Barge d'après un texte de Stéphane Guérin. Et là, c'est un spectacle en fait qui va continuer à tourner dans d'autres salles la saison prochaine. Donc là, il est présenté en avant-première, en chantier, c'est-à-dire qu'on estime qu'il n'est pas encore complètement finalisé, mais que ça fait partie de la règle du jeu de le partager dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Et qu'on aura la chance de le revoir de nombreuses fois la saison prochaine.
Voilà, donc premier spectacle, donc le samedi 20 mai à 17h en avant-première. Surtout, ne regardez pas mon jardin.
Oui.
Alors, je sais pas si tu veux qu'on entre dans le détail du thème ou bien si tu veux qu'on présente les autres spectacles.
Ah, si, je peux, je peux, si, si, je peux dire quelques mots sur ce spectacle-là, sur son thème, parce que c'est vraiment un texte inédit qui a été écrit par Stéphane Guérin, qui est un auteur avec lequel on travaille depuis de nombreuses années et qui a eu une idée complètement folle et géniale. Il a imaginé que tous les grands personnages de Shakespeare, donc on connaît, hein, Hamlet, Roméo, Juliette, etc., se retrouverait dans la Cerisée de Tchekhov, mais à une époque contemporaine. C'est-à-dire que ils se réunissent tous alors qu'un attentat a eu lieu. Quand je dis contemporain, c'est pas pour rien. Et ça donne une farce sévère, cruelle sur notre époque, drôle, et qui révèle vraiment des ressorts de comment. comment on peut se barricader face à une catastrophe, comment on peut faire semblant de ne pas la voir, comment on peut tenter de conserver sa petite vie confortable. Enfin voilà, il y a des rapports de pouvoir qui se mettent en place. C'est vraiment une pièce très intéressante qui est vraiment un miroir d'un certain nombre de choses qu'on peut vivre aujourd'hui.
Voilà, donc samedi 20 mai 17h par la troupe XXL. Dimanche 21 mai 17h également. Donc toujours hein, le lieu, la ferme du Pire, Villeneuve d'Ascq, métro, Triolo, c'est facile, hein, c'est juste à côté du métro.
Oui.
Donc là c'est Noël tant pis.
C'est Noël tant pis. Alors là, c'est pas une troupe du Maestrom, c'est comme on le fait depuis quelques temps maintenant. L'an dernier, on avait accueilli le collectif Les Artisans Bouchers pour leur pièce Dradra et ça avait été un succès phénoménal. Ils tournent encore aujourd'hui et même la saison prochaine. Et donc cette année, on a décidé d'accueillir le collectif des Mobilhomes, qui est dirigé par Daniela Piemontesi.
Mobile avec ouais. Un S, homme, H-O-2-M.
Ouais. Et un petit jeu de mots.
Ouais.
C'est les hommes mobiles. Et donc c'est Daniela Piemontesi qui est à la mise en scène de cette création. Et c'est une artiste vraiment qu'il faut découvrir dans la région. C'est une artiste qui est à la fois interprète, metteur en scène, qui s'intéresse à la danse, qui est aussi une plasticienne. Et donc là, elle a décidé de s'attaquer à un texte de Pierre Note avec cinq interprètes. Pierre Note, si certains le connaissent, c'est un auteur qui est très réputé pour son humour cruel, en particulier sur la famille. Et donc c'est ça l'histoire, c'est une famille qui se retrouve à Noël et ça dégénère dans tous les sens avec une mise en scène qui est chaque fois avec Daniela extrêmement visuelle et pleine d'images fortes. Donc c'est vraiment un spectacle qu'il faut rater à aucun prix.
Voilà, on ne le ratera pas, donc dimanche 21 mai, 17h. Lundi 22 mai, 20h, donc poésie, et c'est une création, le Cercle des Poètes Contrariés. Alors on connaît les poètes disparus, là, mais ce sont des contrariés, je ne sais pas si ce sont des gauchers qu'on a contrariés ou bien au-delà.
C'est une spéciale jeu de mots dans les titres cette année, j'ai l'impression, il y a des clins d'œil de partout. Oui, donc c'est Olivier Geniaud qui mène la troupe des poétiques, qui appelait ça le Cercle des Poètes Contrariés, le sous-titre qui est excellent, c'est On aurait peut-être dû se relire. Ouais. Et effectivement, comme chaque année, le lundi à 20h, ils vont nous proposer de nous lire les meilleurs ou les pires. Je ne sais pas comment il faut considérer les choses. Je pense qu'il n'y a plus de frontières chez eux. Les textes qu'ils ont écrits dans l'année. Et c'est vraiment un moment génial parce qu'on a la chance, et ça n'arrive jamais dans la vie, ça arrive très très peu, d'avoir des gens qui ont écrit des textes et qui vous les lisent eux-mêmes. Et ça, personne n'a jamais pu savoir ce que ça faisait que Molière qui lisait ses textes ou Shakespeare qui lisait ses textes. Enfin, voilà, c'est très difficile d'avoir accès à ce genre de sensibilité directe, en fait. De voir quelqu'un qui s'est arrêté pour poser des mots sur un papier qui ensuite, lui, va les transmettre par la parole.
Alors, c'est vrai que dans le théâtre, on est parfois amené à entendre, voir des, on va dire, des interprétations qui sont parfois très personnelles ou personnalisées par le comédien. Et bon, bien sûr, pour certains auteurs, on ne peut pas savoir comment ils les auraient dit. Dans le théâtre, il y a parfois des gens qui vont au-delà dans le surjeu des textes, dans des lectures un peu empoulées, et d'autres qui vont au contraire prendre une certaine forme de liberté avec le texte.
Oui, on peut toujours. Enfin, c'est aussi la richesse du théâtre, hein, c'est que dans l'interprétation, il y a des possibilités extrêmes vis-à-vis d'un texte. Mais c'est vrai que quand c'est l'auteur qui le lit au-delà d'une interprétation, c'est une force sensible qui s'exprime dans une écriture particulière, hein, puisque chacun a son écriture, chacun a son style, presque chacun a sa langue à l'intérieur de la langue qu'il maîtrise. Et donc il y a une vraie richesse quoi, à s'offrir le plaisir d'entendre. Et en plus, bon, je vous cache pas qu'ils sont 11 et ils ont tous des styles vraiment très, très différents et très forts. Et qu'il y a vraiment des pépites à découvrir lors de cette soirée.
En même temps, ça doit être assez intéressant pour un auteur d'écouter les différentes versions de ce qu'il a conçu, en fait, et voir l'amplitude que peut prendre son écriture.
Là, tu es en train de me demander mon avis personnel sur la question. Je te vois venir. C'est vrai que en tant qu'auteur aussi, ça m'arrive parfois d'entendre mon texte lu par d'autres. C'est un rapport qui est très compliqué parce que c'est toujours un plaisir extrême. C'est-à-dire que c'est un honneur que d'avoir son texte qui est lu et interprété par des personnes. Mais un auteur, je pense, sait toujours profondément que. Comment dire? La voix intérieure qu'il a cherché à exprimer par l'écriture, elle n'appartient qu'à lui et qu'il faut jamais essayer d'aller la chercher dans les autres, quoi. Ce serait un peu, comment dire, c'est un mot fort que je vais employer, mais ça serait un peu fasciste d'espérer à tout prix qu'un interprète ressorte le texte exactement comme nous, on l'a entendu dans notre tête quand on l'a écrit, parce que ça serait supprimer son humanité à lui, qui se transmet aussi dans l'interprétation qu'il fait d'un texte. Et donc c'est forcément un rapport compliqué, mais en même temps c'est nécessaire, quoi. Il faut aussi qu'il y ait une liberté qui s'exprime vis-à-vis d'un texte de théâtre.
Au-delà de ça, est-ce que le temps, justement, n'amène pas, d'une certaine manière, je pense à des auteurs d'il y a 400 ans ou des choses comme ça, à redire ou représenter les choses un peu autrement pour les recontextualiser?
Alors là, c'est tout à fait le sujet du spectacle Tout est théâtre qui va avoir lieu deux fois, qui est un bifrontal le mercredi 24 mai à 20h et le jeudi 25 mai à 16h. C'est-à-dire que Violaine de Barge est tombée sur un livre qui s'appelle Hamlet le vrai, d'un auteur qui existe encore, hein, qui s'appelle Mordillat. Et c'est un livre dans lequel il prétend avoir retrouvé le vrai manuscrit d'Hamlet. Je gâcherai pas le plaisir du spectateur en livrant la vérité sur la véracité de ce qu'il dit, mais du coup, Violaine s'est emparée de ce texte-là avec la troupe des atomes. Elle l'a confronté aussi au texte de Shakespeare et à sa propre écriture avec le présent de la troupe qu'elle dirige. Et du coup, c'est vraiment une quête sur qu'est-ce que c'est que la question de la vérité au théâtre aussi. Et donc oui, ça rejoint vraiment ce dont on parlait à l'instant, quoi.
Donc, deux dates pour ce spectacle, Tout est théâtre.
Oui, c'est un bifrontal, hein, donc c'est-à-dire que les comédiens seront entre le public, si on peut dire les choses comme ça. Donc c'est aussi une expérience, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au Maelstrom, et c'est vrai que c'est une expérience formidable parce que en face de vous, en tant que spectateur, vous n'avez pas seulement un comédien, mais vous avez aussi derrière ce comédien-là une personne du public que vous connaissez pas. Et donc il y a une espèce de regard comme ça à double effet qui est passionnant à vivre.
Voilà, donc c'est vrai que le rapport au public, c'est quelque chose qu'on conçoit dans la mise en scène. Et effectivement, le bifrontal amène, on va dire, un regard assez différent.
Oui, ça nous sort de la boîte, enfin le confort de la boîte noire dans laquelle on est en tant que spectateur, où on s'assoit et puis on est dans l'obscurité, on regarde en face une représentation. Là, on ne peut pas faire comme si on ne voyait pas qu'il y avait des gens autour de nous et qui regardent eux aussi ce qu'on est en train de regarder. Donc un sentiment collectif encore plus fort peut-être.
Alors, c'est vrai que toi, qui connais, tu es un spécialiste du théâtre, pas moi, hein, mais à l'origine, le théâtre grec, par exemple,
Oui.
L'espace était quand même assez conventionnel ou pas?
Alors, allez, je vais pas me lancer dans un historique, mais à l'époque classique, oui, c'est-à-dire que d'abord, il faut savoir que les Grecs ont à peu près inventé la plupart des choses qui nous constituent en tant que civilisation occidentale gréco-latine aujourd'hui. Et le théâtre répondait à des règles mathématiques, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il respecte un certain nombre de proportions, et donc c'était des espèces de ce qu'on appellerait aujourd'hui des amphithéâtres à l'air libre. En même temps, c'est la Grèce, hein, donc ils peuvent se permettre d'être à l'air libre. Et donc en plein air, tout le monde voyait tout le monde, et c'était des moments où la cité tout entière venait assister aux représentations théâtrales. Il y avait il y avait une obligation, et il y avait même pour certains citoyens qui avaient un travail qui ne pouvaient pas abandonner comme ça pendant plusieurs jours pour aller voir du théâtre, il y avait une compensation financière pour qu'ils puissent aller voir du théâtre. On paraît être à des kilomètres de ça, mais bon, il ne faut pas oublier qu'ils étaient que 40 000 à Athènes et qu'ils avaient des esclaves, donc ça permet beaucoup de choses.
Alors justement, cette façon de concevoir l'espace théâtral, enfin de jeu tout au moins, et même le rapport au public, à partir de quel moment soit des acteurs, soit des compagnies, soit le public peut-être, a souhaité se libérer un petit peu de ce qui pourrait être aussi un carcan d'une certaine manière?
Bah, ça, c'est toute l'histoire du théâtre contemporain, en particulier en France, hein, parce que la mise en scène, c'est quelque chose qui existe que depuis 100 ans en France, hein, à chercher à se libérer de plus en plus de cette notion de quatrième mur, il y a le public d'un côté, il y a le spectacle de l'autre, et que de plus en plus, hein, dans tous les grands théâtres de France, on assiste à des types de représentations qui changent, qui s'approchent de la performance, qui s'approchent de l'in situ. Hein. De plus en plus de choses se font dans lesquelles le public peut aussi simplement venir voir ce qui se passe. Les démarches sont de plus en plus ouvertes dans le théâtre contemporain vis-à-vis de la relation au public.
Voilà, donc on va parler maintenant du vendredi 26 mai à 20h avec une création, hein, et puis aussi une création autour de gens qui ont l'air d'être très en colère, non?
Oui, c'est le titre du spectacle, c'est « Je suis beaucoup plus en colère, putain, que ce que tu imagines », qui est une réplique de la pièce « Manque » de Sarah Kane. Et ce spectacle s'inscrit dans un diptyque avec le spectacle du lendemain, qui s'appelle « Lui ne rien dire » et dont je vais parler ensuite. Le diptyque s'appelle 130, je vais expliquer juste très rapidement pourquoi 130. Ça fait référence à une loi qui est la loi numéro 130 du Code d'Hammurabi, qui est le tout premier grand texte juridique de la Mésopotamie, qui est aussi un des fondements de notre civilisation, et qui est le premier texte de loi qui reconnaît que quand une femme est violée, elle n'est pas consentante. Ça paraît ridicule de dire ça aujourd'hui, ça paraît une aberration de devoir encore le dire aujourd'hui. Et pourtant, cette loi-là, elle est capitale dans notre histoire, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à estimer que il peut y avoir chez la femme une part de liberté. Et on sait combien il a fallu des années et des années et des années pour que ce combat-là grandissent, et encore aujourd'hui il faut le mener.
Voilà, donc tout commence en Mésopotamie, c'était le titre d'une exposition au Louvre-Lens,
oui,
d'ailleurs.
Hein. Exactement.
On peut dire que la réflexion commence à ce moment-là.
Alors, il n'y a
sur
pas
ce sujet-là, hein, je te parle de la femme.
J'espère, oui. Je pense que ça, en tout cas, cette loi-là a dû changer énormément de choses. Dans le fait qu'on arrête de considérer la femme comme une propriété de son mari, par exemple. Et que du coup, n'importe qui pouvait faire n'importe quoi avec une femme, quoi.
Donc le texte au départ.
Alors là, pour les deux créations qu'on fait, pourquoi je mentionne ce diptyque et pourquoi il s'intitule comme ça? Parce que ce sont deux textes qui s'intéressent à la condition de la femme et à la violence qu'on peut faire aux femmes. Le premier, « Je suis beaucoup plus en colère, putain, que ce que tu imagines », s'appuie sur « Manque » de Sarah Kane et un certain nombre de textes d'Angelica Lidl, qui est une performeuse contemporaine espagnole, qui est une femme d'une force remarquable sur le plateau. Et c'est un spectacle qui est une espèce de performance extrêmement intuitive, dans lequel la création s'est faite surtout à partir d'images, et qui essaye de montrer comment, sans parler directement du viol, mais comment, après une catastrophe ou un traumatisme, le corps et l'esprit peuvent tenter de se libérer de ce traumatisme-là et tenter de guérir petit à petit. Donc c'est vraiment un travail aux frontières entre le théâtre et la danse. Qu'on espère le plus poétique possible et qui vraiment va pas essayer d'aborder les choses en termes de reproduction, de représentation de ce que ça peut être que le viol, mais plutôt de se poser la question, parce que c'est aussi, je crois, une des questions de notre monde contemporain, face à une catastrophe, face à une blessure, Comment est-ce qu'on peut aller vers une forme de libération, quoi?
Alors, je vois un sous-titre que je trouve très beau, Dehors, les arbres avaient l'âge du monde et épousaient le ciel. Qui est-ce
Oui.
qui a écrit ça?
Ça, c'est Mélodie Laslin qui a écrit ça. C'est le sous-titre qu'elle a donné à son spectacle Ne rien dire, qui est vraiment, qui va être un événement dans le festival parce que c'est la première fois qu'il y a un spectacle qui se fait comme ça au Maelstrom. C'est-à-dire qu'elle s'est emparée d'un texte de théâtre qui s'appelle Pur et qui est l'histoire d'un inceste. Elle s'est emparée d'un texte de théâtre pour en faire une création chorégraphique parce que Mélodie Laslin est chorégraphe et danseuse. Et donc, elle a mené avec une troupe de danse-théâtre une création vraiment, comment dire, qui n'a pas de précédent au Maelstrom, dans le sens où elle cherche vraiment à atteindre un stade où la parole et le corps se mêlent complètement et où on n'est plus simplement dans des metteurs en scène qui cherchent à mettre un peu de corps dans leur spectacle de théâtre parce que ça rend les choses plus vivantes, ou des créateurs de danse qui mettent un peu de texte dans leur spectacle de danse parce que bah, ça donnerait un peu plus de signification et de propos à leur spectacle. Mais où vraiment elle essaye de coller ces deux disciplines et d'aller vers quelque chose qui soit vraiment d'une vérité, d'une poésie totale, quoi.
Donc, cette pièce Ne rien dire, c'est samedi 27 mai à 20h, hein, dans ce création. Et le soir, il y aura, après ce spectacle, un moment encore intéressant.
Alors oui, ça fait partie de ce qu'on espère avec le public, c'est-à-dire que on espère que si on montre de la danse au public, son réflexe, ça va être d'avoir lui aussi envie de danser, lui aussi envie d'exprimer des choses avec son corps. Et du coup, après le spectacle, toujours Danila Piemontesi a proposé une œuvre éphémère créée à partir de la forme de la danse de la tarentelle. Et donc tout le public est invité à rester avec nous, bien évidemment. C'est pas un événement payant du tout, et il s'agit simplement voilà, de terminer la soirée, de fêter l'approche de la fin du festival tous ensemble.
Alors, la fin de ce festival, mais il y a encore le dimanche, par exemple, avec les scènes éclatantes.
Oui, alors ça c'est l'atelier débutant. C'est une troupe toute jeune, c'est-à-dire que c'est des gens qui, il y a un an, n'avaient jamais mis les pieds sur scène. C'est une troupe que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer une fois, qui a une énergie folle, qui a très 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 envie de montrer ce dont elle est capable sur un plateau. Et donc ils vont présenter des scènes dirigées, coachées par Loïc Pinchon. Et vraiment c'est un moment rare, quoi, parce que c'est l'occasion d'assister au premier pas de quelqu'un sur un plateau de théâtre. Et c'est toujours un moment d'une fragilité, d'une beauté. Qui est toujours ensuite difficile à retrouver quand ça devient une habitude de monter sur un plateau de théâtre, quand ça devient même presque un métier. C'est quelque chose qu'il faut toujours se battre pour retrouver. Là, on va y assister pour la première fois et bon, une première fois, ça se rate pas.
Bien, merci Simon de nous avoir présenté ce 21e Grand Maelstrom Festival, festival donc de théâtre, de danse, de poésie, avec même des expositions. On n'en a pas tellement parlé, des expositions.
Oui, on peut réserver la surprise parce que
Bon.
l'exposition est ouverte tout autour, mais je rappelle simplement que c'est à la ferme du Pire, donc les jauges sont assez réduites. On est sur des spectacles entre 60, 80, 100 places. Donc courez-y pour réserver sur le site internet grandmaelstromfestival.com.
Voilà, il y a un numéro de téléphone, il sert à quoi là?
Il est censé pas servir en fait, parce que
Bon.
c'est une des adhérentes du Maelstrom qui, au bout du
D'accord.
téléphone, il vaut mieux éviter de
Ouais, donc nous
tout se passe
ne
sur
l'annoncerons
Internet.
pas à la
Voilà, c'est mieux.
radio. Merci Simon. Donc rendez-vous du 20 au 28 mai à la grange de la ferme du Pire de Villeneuve-d'Ascq.